Bonjour à tous. Nous revoilà sur Radium pour une nouvelle émission. Il y a un petit moment qu'on ne s'était pas vu ni entendu. Alors on va tous se présenter. Moi, c'est Sophie.
Bonjour, c'est Franck.
Il faut passer les micros.
Bonjour, moi, c'est Mélanie.
Bonjour, moi, c'est Laurence.
Bonjour, c'est Gorgui.
Bonjour, c'est Jacques Hugues.
Bonjour, c'est Guillaume.
Et bonjour, c'est Julie.
Salut à tous.
Bonjour tout le monde.
Ben, on est content de se retrouver. Après cette absence, oui, bah, c'est-à-dire que le mois de mai a été compliqué. Hein,
oui, avec tous les fériés et tout.
Les fériés, les ponts, etc. Voilà, on est de nouveau réunis. Pour commencer finalement par un petit sujet que Gorgui avait évoqué, c'est qu'avec tous ces ponts, il y a eu entre autres le pont du 8 mai. Et le 8 mai, c'est quand même une date historique qu'on avait envie de rappeler. Parce que des fois, on se pose la question, on se dit, vous faites ces fériés, mais il correspond à quoi ce férié? On ne sait plus très bien. Et c'est bien de se rafraîchir la mémoire. Donc, Gorgui, le 8 mai, ça correspond à quoi?
C'est l'armistice.
Ouais.
C'est la fin de la guerre de 1945, la Deuxième Guerre mondiale. Le traité signé par les Allemands, les Anglais, et les Américains et les Français.
D'accord.
Pour la fin de la guerre.
Ouais, ok. Voilà. Donc, c'est quand même important. Voilà, donc vous vouliez parler justement donc de cette date historique et de la résistance, de toute la résistance qui s'est passée pendant cette guerre.
On voit que dans certains pays il y a l'extrémisme, certains pays il y a encore l'extrémisme qui se développe. Et on peut se poser la question parce que le nazisme quand même ça a été l'extrémisme, l'intolérance et tout ça. Donc on peut se réfléchir sur tout ça. Pour ne pas avoir des idées extrémistes, pour avoir moi je suis pour la mixité des cultures.
Oui.
Qu'il y ait beaucoup plus de cultures ensemble.
Et bien sûr.
Vers le développement.
Ouais.
Plutôt que de se renfermer sur soi-même. Plutôt que de se renfermer sur soi-même et de se dire qu'on a la science infuse et que l'autre n'existe pas.
Et oui, bien sûr. Voilà. Ça, c'est toujours un problème de méconnaissance de l'autre qui fait monter l'extrémisme. Hein, c'est effectivement, ouais. C'est parce que c'est pour ça que vous parliez de résistance. Hein. Vous avez associé le 8 mai à la guerre, à la résistance.
À la résistance.
Parce que pour vous, c'est important de résister
à tout ça,
aujourd'hui. À ces idées qui montent, qui font peur. Hein. Parce que, oui, Franck.
Moi, ce que j'aime pas dans ce qui s'est passé dans la résistance ou dans la guerre, c'est que les plus forts s'en prennent toujours aux plus faibles.
Ouais.
C'est ça.
Les plus forts, alors les plus forts en nombre peut-être, c'est ça, les plus forts, qu'est-ce que vous entendez
nombre,
par les plus forts?
En nombre, oui.
Ouais. Ben oui, c'est vrai que pendant la guerre...
Parce qu'avec les chars d'assaut et tout, les avions atomiques, les bombes atomiques du Japon,
ouais. Oui.
À Niro, c'est pas Niro que ça s'appelle.
Hiroshima.
Hiroshima, ouais. Ils en parlaient à l'époque, mais... Ils n'en parlent plus du sujet. Ils montraient même la NASA à la télé. Dans les années 88-90.
La NASA, c'est-à-dire
La fusée spatiale.
Ouais. Parce que vous parliez de Hiroshima, de la bombe atomique, qui est tombée sur cette... Oui, ben là, voilà, ça, c'est des exemples de l'humanité qui sont...
Ouais, c'est pas solidaire.
Il n'y a pas de mots pour décrire ça, hein. Ben voilà, on essaie de lutter contre ces idées-là. Gorgui.
Ouais.
Ah, non, c'est Jean-Jacques qui veut parler. Ben, on vous écoute, Jean-Jacques.
Oui. Je voulais dire, pour la guerre d'Algérie, mon père a fait Mostaganem et Oran.
D'accord.
Et il y avait la guerre entre les Français et les Arabes.
Mm-hmm.
Alors, il fallait bien que quelqu'un gagne la guerre quand même. Les Français ou
c'est ce qui fait qu'il y a des guerres, c'est qu'il y en a toujours un qui veut gagner.
Oui.
C'est pour ça qu'il y a des guerres, c'est qu'il y a pas, c'est quand les gens ne veulent pas négocier.
Oui.
Je crois. Hein.
Et mon père, quand il a vu ça, il a dit je vous laisse le pouvoir et maintenant débrouillez-vous pour voir si la fin de la guerre se passera bien.
D'accord.
Après, il y a eu les Allemands qui sont arrivés. Et ils nous ont foutu la trouille.
Vous l'avez vécu, parce que quand vous dites nous, c'est quand votre père vous le raconte.
Oui, oui.
Ah, oui. D'accord.
Et aussi, il y a le truc sur les Juifs, les pauvres, qui ont été arrêtés par la Gestapo.
Ouais.
Tu sais,
oui.
La police, c'est les polices allemandes, là.
Oui, pendant la guerre.
Et ça a été terrible.
Alors, Jean-Jacques, ça revient à ce que dit Gorgui, c'est que les Juifs étaient considérés comme un peuple...
Inférieur.
Hein ? Ah, prenez le micro.
Comme un peuple inférieur.
Voilà.
Par les Allemands.
Mais pas, voilà, parce que toujours pour cette peur de l'autre, peur de la différence, hein, et donc on préfère l'éliminer que de...
Oui. Ben ouais.
Ben que de
et il y avait la chambre à gaz aussi. Mm-hmm. La chambre à gaz.
Ouais.
Tu sais ce que c'est ?
L'Holocauste, on appelle ça l'Holocauste.
Oui. L'Holocauste, oui.
Et après, il y a eu le cimetière avec toutes les croix. Je ne sais pas où c'est que ça se trouve, à Verdun, peut-être, à toi.
Enfin, je voulais rebondir là-dessus parce que je vois que la Terre, c'est la Terre pour tout, pour les, la Terre, c'est pour tout le monde, en fait. Hein.
Mais ouais.
Tous les humains sont sur la Terre et on se dit que chaque pays, ça c'est mon pays, ça c'est mon pays. On se fait des guerres, on se fait des guerres économiques, on se fait des guerres tout court. Et c'est dommage. Par exemple, moi, je suis pour la mixité des cultures et que chacun respecte la culture de l'autre et qu'on vive tous ensemble sur cette Terre qui est pour tout le monde.
En fait, c'est oui, la question, c'est ça, c'est que est-ce qu'on s'approprie une petite partie de la Terre en se disant on est chez nous, mais elle appartient à tout le monde, effectivement, et c'est cette circulation qui est intéressante.
Et on voit que ces idées se propagent jusqu'à maintenant et ça devient de plus en plus cru. On voit certains pays maintenant qui se renferment sur elles-mêmes, ouais. Sur eux-mêmes, en se disant le nationalisme, mon pays,
ouais.
Et en oubliant le reste du monde. Mmh. Alors que le reste du monde existe, on est tous sur la même planète.
Mmh. Ouais. Pour revenir sur la guerre. Hitler en fait voulait l'eugénisme, c'est-à-dire éliminer toutes les races inférieures et ne faire que des races supérieures.
Ariennes.
Oui.
Voilà, et ça c'est quelque chose de vraiment affreux, quoi.
Ben voilà,
parce qu'on est tous égaux, qu'on soit de cultures différentes ou. On est tous égaux, on est tous bien des sûr. Êtres humains, on est unique, chacun est unique, et donc on ne doit pas supprimer une partie de la population.
Mais il faudrait que tout le monde pense comme vous, et voilà, ça résoudrait tous ces problèmes.
Hein. Et puis c'est paradoxal, par exemple, on voit que maintenant il y a le développement d'Internet, par exemple, développement d'Internet, les gens peuvent se parler de tous les pays ensemble, et par contre il y avait à l'époque l'ignorance, mais c'est plus de l'ignorance maintenant. C'est plus de l'ignorance, c'est une façon de se renfermer sur soi-même et de se dire que mon pays, c'est le meilleur.
Oui.
Donc je vais pour mon pays et les autres, on s'en fout. Donc alors que sur la Terre, on est tous pareils, comme disait Laurence, on est à égalité. Et chacun doit pouvoir vivre sur la Terre d'une façon bien, d'une façon assez raisonnable.
Après, c'est marrant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on peut se renfermer sur soi dans certains pays, mais à côté de ça, il y a cette espèce d'hyperconnexion planétaire, parce que maintenant, on est tous connectés, mais ça dépasse les frontières. Mais après, voilà, on est connectés, on est quand même caché derrière un outil, caché derrière... Il n'y a pas cet échange, comment dire, d'être humain à être humain, quoi. Il y a une espèce de... Il y a un ordinateur qui nous sépare, ou un téléphone, ou... Jean-Jacques.
Je vais lui rajouter un truc. Mmh. Sur la guerre, il n'y a pas que les Allemands et les Algériens qui l'ont faite. Il y a la croyance de Dieu aussi. Et après les Romains, ils ont tué Jésus.
Ah oui, ben là, c'est vous. Ouais.
Et après,
on va parler de toutes les guerres.
Il y a eu la religion qui s'est faite.
Ouais, la guerre de religion, ça aussi.
Et la vie éternelle, j'y crois, la vie.
Bon, ben ça, c'est un autre sujet, Jean-Jacques.
Et les Allemands, les pauvres, ils ont été couillonnés par les Américains à la fin de la guerre.
Bon.
Ils se sont trouvés un peu bêtes. Et ça, je comprends que les Français, ils ont surmonté toute l'histoire de la guerre. Et après, ils ont fêté ça le 14 juillet, et la justice.
Voilà, mais l'armistice dont parlait Gorgui, oui. Ouais. Ouais.
Voilà, je repasse à Gorgui.
Merci Jean-Jacques.
Donc, dans notre façon de vivre, on peut résister aussi, hein. Oui, la façon de vivre, regardez que moi je suis du Sénégal, je suis venu en France, je me suis confronté à une autre culture, mais je gardais toujours ma culture, mais la culture française m'enrichit comme ma culture sénégalaise enrichit les Français, certains Français.
Ouais.
Donc c'est cette charge qu'il faut garder et ne pas s'enfermer sur soi-même.
Et oui, cette résistance au quotidien, je crois qu'on la pratique tous, hein. Laurence, on en parlait. Résister au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste de cette résistance de la guerre ? On résiste, voilà, chacun à sa façon, des fois peut-être sans en avoir conscience, mais Guillaume, je vous laisse.
Moi, je résiste vis-à-vis des gros consortiums.
Ouais, voilà.
Donc, je bois plus de coca, je ne vais pas à McDo, j'évite les hypermarchés.
Ouais.
Je consomme près des petits producteurs.
Ouais.
Donc, c'est aussi une forme de résistance.
Ah bah oui, c'en est une. Hein. C'est une véritable action, ça. Hein. Après, voilà, est-ce qu'on a d'autres manières de résister ? Ben, Gorgui, voilà, ne serait-ce que quand vous exprimez toutes vos idées, vous résistez au fascisme, à l'extrémisme qui monte, hein, en véhiculant voilà, ben, des messages de tolérance. C'est hyper important. Après, voilà, comment est-ce que... Je sais pas, Franck, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette idée de résistance ? Est-ce que vous, dans votre vie, vous avez l'impression de résister à quelque chose ?
Non, pas spécialement.
Moi, je dirais que vous résistez par rapport à vos difficultés du quotidien.
Oh, je n'ai pas trop de difficultés.
Ouais, c'est vrai ?
Ouais, c'est bon.
Heureux, Franck.
Ouais.
Laurence ?
Excusez-moi. Moi, en fait, je résiste tout simplement à la vie.
Ouais.
À la vie, parce que j'ai passé 10 ans à penser à la mort.
Ouais.
Donc maintenant, je lutte pour la vie.
C'est ça, parce que résister quelque part, c'est ça, c'est lutter.
Voilà. Hein. Et tous les jours, je lutte contre mes angoisses, contre toute chose négative qui peut m'arriver à moi-même.
Mais c'est un sacré combat, ça. Hein.
Ouais.
Donc c'est un sacré courage aussi. Il faut avoir de la force pour ça. Donc ça aussi, voilà, c'est une résistance. Voilà, puis résister... résister, voilà. Si vous avez d'autres idées, faites-nous en part.
Ah oui. Voilà.
Attends, oui.
Je prends l'antenne un petit peu.
Ben, Jean-Jacques...
Je m'excuse.
Oui, mais c'est pour parler de la résistance. Comment vous résistez, vous ?
Que bien. Bien, bien comme il faut.
Vous avez un exemple ?
Oui, j'ai un exemple, parce que j'ai une résidente là-bas qui me fait la guerre à moi.
Ah, donc vous résistez. Ben voilà, ça aussi, c'est une forme de résistance.
Et ça, je ne peux pas la remettre.
Oui.
Elle me tire sur moi.
Elle vous tire sur vous, c'est-à-dire ? Elle vous embête ?
Des raisonnements un peu bêtes et des trucs que je ne peux pas dire trop à l'antenne.
Ouais.
Et ça, je ne peux pas la mettre parce qu'elle prend toujours le dessus.
Mm.
Elle a fallu me faire droguer par les médicaments.
Oh.
Il a fallu mourir hier. Et elle a été dangereuse.
Elle a essayé de vous empoisonner. Daniel. Non, mais tu peux, t'en dis pas de nom à l'antenne, Jean-Jacques. Ouais.
Daniel,
s'il vous plaît.
S'appelle Bro.
Mais, bon. Trop tard.
Et voilà. J'espère que ça va s'arrêter là.
Bon, ouais. Donc vous résistez contre des collègues qui ne sont pas bienveillants avec vous. C'est
oui.
Ça aussi, c'est une forme de
résistance. J'espère qu'elle arrêtera la guerre contre moi.
D'accord.
Bon. Voilà. Et on repasse à Gorgui.
En fait, je trouve qu'on parle beaucoup de développement. On parle de développement économique. On parle de développement technologique. Mais il y a le développement humain aussi à développer. Parce que ça, c'est important aussi, le développement humain.
Ouais.
En disant que tout est axé sur le développement économique, tout est axé sur le développement technologique, en oubliant le caractère humain, je pense qu'on va dans l'impasse, quoi. Je trouve qu'il faut privilégier le développement humain avant le développement économique et le développement technologique.
Alors, quelle proposition vous auriez pour développer l'humain ?
Pour développer l'humain, par exemple, les droits de l'homme, par exemple.
Oui.
Les droits de l'homme, à être tolérant.
Ouais.
À partager, à être solidaire, à sachant que nous sommes tous des humains et que chacun doit aider l'autre. Avant de me consacrer, l'autre doit se consacrer d'abord, en partant de ce principe.
D'accord.
Voilà.
Ouais.
Et alors que le développement économique, c'est tout ce qui est opportuniste. Il faut être opportuniste pour arriver, quoi. Il faut être opportuniste.
Voilà. Ouais.
ça rejoint à ce que disait Guillaume et sa forme de résistance de consommer local pour faire vivre le petit producteur qu'on côtoie tous les jours, de ne pas aller dans les grandes surfaces, voilà, qui veulent, leur but c'est de nous faire consommer et dépenser. Donc tout ça, c'est, ça revient à, ce que, à l'idée qu'avait Guillaume de développer les relations humaines plutôt qu'économiques en fait.
Tout à fait. D'ailleurs, j'associe, c'est ce week-end, il va y avoir Biocibel à Grouillé. Et Biocibel, ben c'est, voilà, c'est sur 2 jours sur Grouillé. C'est toutes les associations ben de producteurs locaux et de façon de, de vivre de manière bio ou en tout cas raisonnée. Ils sont tous présents pour un genre de foire, quoi. Et je vous invite à y aller parce que c'est extraordinaire. Et là, justement, on apprend plein de choses intéressantes pour résister. Guillaume.
Oui, il y a aussi les portes ouvertes au Jardin des Merveilles à Cordes-sur-Ciel, ce week-end.
Ah, c'est-à-dire ?
Et en fait, c'est pour apprendre la permaculture.
Ah ben voilà. Ouais, ouais. Et la permaculture, vous pouvez nous en dire un petit mot, vite fait ?
Mais c'est comment faire des plantations sans pesticides ou intrants.
Voilà. Eh ben voilà, super. Donc, vous dites que c'est à Cordes-sur-Ciel ?
Cordes-sur-Ciel, oui.
Et c'est ce week-end ?
C'est ce week-end.
Voilà, ben, vous voyez, il y a plein de choses à faire ce week-end pour ce... pour lutter, pour résister tranquillement.
Et dans la même idée aussi, je crois que c'est début juin où il y a de ferme en ferme.
Oui, oui.
Il y a lieu dans toutes les fermes locales, il y a des fermes participantes. Donc l'idée, pareil, c'est de faire le tour des fermes, de voir comment ils travaillent et de découvrir leurs produits.
Tout à fait, ouais, ouais. Ça c'est super intéressant à faire aussi. En plus, ils sont toujours très accueillants, il y a des dégustations, il y a toujours le petit côté en plus vachement convivial de ces fermes. Alors peut-être, ouais, Gorgon vous écoute. Hein.
Quand on voit qu'il y a 5 personnes qui détiennent tout le capital de la Terre, par exemple, il y a 5 personnes, ouais. 5 milliards d'êtres qui détiennent tout le capital de la Terre, ouais. Il y a d'autres qui meurent de faim, et qu'on ne peut pas s'unir, que chaque homme essaie d'aider l'autre, ouais. pour qu'il ne soit pas dans le besoin, et qu'il vive normalement, et qu'il y a d'autres qui s'enrichissent. Je trouve ça normal.
Bien sûr, bah, vous parlez du capitalisme, là, c'est ça. Alors, moi, Jean-Jacques.
Je suis d'accord avec Paris, et j'espère que les paysans et les paysannes nous fassent goûter le bon miel qu'a fait venir avec les ruches des abeilles,
oui.
Qui sont en voie de disparition.
Eh bien voilà, ça aussi c'est un sujet, Jean-Jacques, merci beaucoup.
Voilà.
Donc il faut parler,
c'est que
il y a des pétitions qui circulent sur Internet pour justement lutter contre ces pesticides qui sont utilisés. Il y a je crois, une loi qui vient de passer, d'interdire un pesticide. Guillaume, vous avez le nom, peut-être ?
Non, ils en ont interdit 3, des néocotidiens, un truc comme ça.
C'est ça, ouais. C'est donc compliqué, ouais.
Et ils en ont interdit 3 en Europe.
Ouais, bon, voilà, donc il y a un espoir aussi, vous voyez, comme quoi de lutter, ça donne des résultats. Moi, cette pétition, je l'ai signée, je l'ai fait tourner, enfin, celle-là et d'autres, hein. Mais voilà, ça aussi, c'est résister. C'est ce... hein, c'est ce... comment dire... être en phase avec l'environnement, quoi, hein.
Elle n'a pas entendu Borghi.
Mais si, elle a entendu. Alors, on va faire une petite pause musicale. Guillaume nous proposait...
Alors, c'est Tiken Jaffa Coli avec Où veux-tu que j'aille ?
Super, merci.
Où veux-tu que j'aille? T'as brûlé ma maison d'Abidjan parce que je ne suis pas de ton clan. Mon grand-père t'a tout donné, mon papa a tant sué. Moi je suis né là, pourquoi veux-tu que je m'en aille? Prends la racaille, où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Où veux-tu que j'aille?
Je suis né en bord de Garonne, tu vois. Y'a pas meilleur curriculum, y'a pas dit donc meilleur pédigré, j'avais un beau teint tigré. Black, je suis tombé côté face de la pièce, pile dans le délit qu'on appelle le faciès. Où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille?
Où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Moi longtemps, j'ai été pour la loi. Va pour nos ancêtres les Gaulois. Je disais même, pour entrer dans le moule, allez ça roule. Là je suis tombé, côté face de la pièce, pile dans le délit qu'on appelle le faciès. Alors, où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille?
Nous sommes tous nés là, exilés sans autre choix. Nos grands-pères se sont sacrifiés, nos papas se sont intégrés. Même si on nous traite d'étrangers, pourquoi veux-tu qu'on s'en aille? Prends la bagaille, où veux-tu qu'on aille?
Où veux-tu qu'on aille?
Mais où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu qu'on s'en aille?
Où veux-tu qu'on aille?
Où veux-tu qu'on aille?
Où veux-tu qu'on aille? Où veux-tu qu'on aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Où veux-tu qu'on aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille?
Où veux-tu que j'aille? Mais où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille?
On est bon? Allez, c'est à nous. Alors, en fait, je réfléchissais que quand on parle de résister, quand on parle non, surtout de lutter, oui, contre les inégalités et surtout contre l'intolérance, une manière de lutter, c'est peut-être aussi de parler différentes langues. Parce que, Gorgui, vous avez au Sénégal une langue...
Ma langue natale.
Voilà, votre langue natale. Vous avez appris le français, vous êtes bilingue, donc ça veut dire que vous avez ces deux cultures aussi par la langue. Mmh. Et c'est hyper important, la langue, surtout maintenant qu'on est dans une espèce de mondialisation où il faut absolument savoir parler autre chose que sa propre langue. C'est une manière de...
Surtout l'anglais, hein.
Ouais.
L'anglais qui est parlé partout.
Exactement, ouais. Mais de toute façon, dans les collèges, ils l'apprennent de plus en plus tôt, et c'est de plus en plus intensif. Parce que nos enfants, je pense qu'ils vont... Et ça sera la condition sine qua non d'être bilingue, ne serait-ce qu'avec l'anglais, parce que voilà, ils vont tous se promener, aller travailler ailleurs... Et donc, c'est important. Et puis même, ne serait-ce que nos pays voisins, quand on va en Espagne, c'est super de pouvoir communiquer avec les Espagnols dans leur langue. C'est une manière de voir qu'on s'intéresse à eux. Eux, ils sont contents de voir qu'on fait cet effort de communiquer dans leur langue. Et puis, l'inverse, c'est pareil. Quand on rencontre des étrangers qui parlent le français, tout de suite, les rapports ne sont pas les mêmes. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, en fait, j'ai fait 7 ou 8 ans d'anglais à l'école.
Ouais.
Et c'est une matière qui me plaisait beaucoup. C'était, je crois, une des seules où j'avais 18 de moyenne.
Ah ouais?
Ouais. Mmh. Et je suis allée en Angleterre aussi parce que j'ai une amie qui a vécu là-bas. Mmh. Donc, elle m'a invitée. Ça me faisait l'occasion de parler anglais. Et sinon, à la rentrée, là, comme j'ai des cousins espagnols, à la rentrée, je voudrais prendre des cours de castillan.
Ah ben voilà, super.
Voilà, d'espagnol, castillan. Mmh. C'est à la MJC des Salvages.
Ouais, ah ouais.
Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir bien parler avec ma cousine, parce que sur Facebook, en fait, on communique et c'est toujours très limité. Ouais. Puisqu'elle ne parle pas du tout le français, et moi, l'espagnol, je ne le connais pas bien non plus.
Ah oui, voilà, ouais.
Donc,
ouais.
C'est un peu limité, quoi.
Ouais. Bon, c'est bien. Du coup, ça vous donne envie de... Ben,
voilà, ouais, de prendre des cours d'espagnol.
Oui, Guillaume.
Oui, l'anglais aussi, c'est pour l'informatique.
Oui, ouais.
Il y en a besoin à l'heure d'aujourd'hui, étant donné que tous les logiciels viennent des États-Unis, enfin, les trois quarts qu'on utilise. Donc, c'est toujours intéressant de connaître un minimum d'anglais pour pouvoir coder.
Et oui. Et puis, comme toute notre jeunesse, là, il y en a beaucoup qui se... Enfin, l'informatique, ça devient un métier très présent. Donc, toutes les générations qui arrivent, pour eux, voilà, ça va être indispensable, effectivement. Ouais. Ah, ouais.
Enfin, il y a trois langues qui sont indispensables, c'est le français, l'espagnol et l'anglais.
Ouais.
Si on ne sait pas ces trois langues, je pense qu'on peut parler partout dans le monde.
Mmh. Oui. Après, bon, il y a des endroits reculés en Asie où ils ne parlent pas l'anglais. Et
ni espagnol, ni français. Mais la plupart des pays du monde, quand même, quand tu parles le français, l'anglais ou, la,
oui,
ou
oui,
l'espagnol, tu te fais comprendre.
Ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Jean-Jacques.
Je voulais vous parler de l'Occitanie.
Ouais, vrai.
La langue étrangère, là.
Ah, oui, c'est
une langue étrangère pour moi parce
pour
que
vous, oui,
je
d'accord.
découvre.
Ah oui? Comment ça, vous découvrez
parce
ça?
Parce que je découvre, oh, parce que en écoutant les cassettes et des trucs comme ça.
Ouais, vous écoutez de l'Occitan?
Celui qui faisait Thierry Lafronde, il a joué dans le truc de l'Occitanie.
D'accord, je ne sais pas.
Il a été le chef du roi de France, mmh. des trucs comme ça.
Mais c'est vrai ce que vous dites, oui. toutes les langues locales, régionales, oui. ne serait-ce que aussi ben le catalan en Espagne. Gorgui aussi, vous avez des langues...
Il y a un peu le français aussi.
Au Sénégal
Moi, au Sénégal, il y a le français,
oui.
il y a l'anglais aussi, parce que j'ai un oncle qui est professeur d'anglais d'ailleurs.
Oui.
Et il y a qui parle espagnol, anglais, français.
Mais est-ce qu'il y a une langue locale au Sénégal?
Il y a la langue locale du Sénégal, c'est le Wolof.
Comment
c'est
vous dites
le Wolof, W-O-L-O-F.
D'accord.
C'est la langue du Sénégal, parler. La langue officielle, c'est le français.
Ah oui, oui,
la
c'est
langue
oui,
officielle,
ouais, ouais. Ouais.
La langue natale, c'est le Wolof.
D'accord, oui. Ouais. Et vous pouvez nous dire un mot d'eux?
Nagadef.
Ouais, ça veut dire quoi?
Ça veut dire comment vas-tu?
Nagadef.
Nagadef.
Ouais. Bon, allez, on va essayer de retenir.
Tu dois aller prendre Magifelek.
Oh, c'est compliqué.
Et par exemple, je trouve que quand j'ai été en Espagne, je suis passé pour aller au Sénégal, je suis passé à Madrid. Et quand je suis arrivé en Espagne, même si je parlais français, je n'arrivais pas à me faire comprendre.
Ah oui.
À Madrid.
Ouais.
Déjà, quand tu sors du pays de la France,
ouais.
des fois, oui. à Madrid, je n'arrivais plus à me faire comprendre.
Et oui, mais oui.
Parce que les gens parlaient espagnol et anglais. Et voilà, je n'arrivais pas à parler avec un autre en demandant des renseignements.
Parce que
je parlais français.
Après, il n'y a plus que la langue des signes, mais bon, c'est compliqué.
Donc c'est important quand même de connaître certaines langues.
Exactement, oui. Non, mais c'est sûr que pour l'ouverture au monde, c'est vrai qu'il faut... C'est hyper important
et,
de...
Et moi, je voulais vous dire, je ne comprends pas l'espagnol couramment. Je connais quelques mots.
Ouais.
Bio tinto, la porta del sol, ça veut dire la porte.
Oui.
Et après...
Vous avez dit quoi, vino tinto?
Oui, bio tinto.
Alors, ça veut dire quoi en français? Allez-y, faites une traduction. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, mais ce que vous avez
la
dit.
La porta del sol, c'est la porta.
Et avant vino tinto, ça veut dire quoi?
Tinto, ça veut dire le vin.
Le vin rouge. Ah,
le
ça,
vin
vous savez
rouge,
dire,
oui.
c'est bien.
Et après, c'est pas pour la pâtisserie. Je vais demander ça à mon collègue, là, à côté de moi.
Je sais qu'on est au comment l'espagnol.
Les gâteaux en espagnol, je ne me souviens pas.
Allez, merci.
Qui c'est qui le sait?
Et puis finalement, pour faire un lien avec notre débat de première partie, là, le fait de comprendre l'autre, d'arriver à échanger, ben, ça permet voilà, d'essayer de le comprendre, d'aller vers lui,
oui.
de créer des relations et voilà, de mieux s'entendre du coup sur...
C'est un passeport en fait.
C'est ça, sur c'est notre planète complète.
Mais c'est une barrière qui tombe, énorme.
Une énorme barrière d'ailleurs.
Ouais, ouais, de parler la même langue ou de faire cet effort-là. Ça veut dire vraiment, effectivement, comme tu dis, Julie, s'intéresser à la culture de l'autre.
Et puis voilà, souvent, ce qu'on ne connaît pas, ça peut faire peur. Donc la barrière, c'est la langue, c'est la meilleure façon de justement
de casser la
barrière,
ouais.
de comprendre et du coup d'avoir moins d'appréhension, de crainte et du coup moins de conflits sur notre belle planète toute bleue.
Voilà. tu veux dire un petit mot, Mélanie?
Oui. Moi, je voulais dire que rien que le fait de connaître quelques mots, par exemple, moi, je connaissais Nangalef, Nagefelek.
Ah ouais.
Ou même en occitan, j'ai pu travailler avec des personnes âgées qui parlaient occitan.
Ouais.
Et le fait de dire quelques mots, ça montre qu'on porte de l'intérêt à l'autre.
Tout à fait.
Et que je fais l'effort de te parler quelques mots dans ta langue,
ouais,
et
ouais.
c'est pour te montrer que je te porte de l'intérêt et que
ouais.
j'ai envie de communiquer,
voilà.
de vivre
de
quelque chose avec toi.
Ouais. Ouais, tout à fait.
La France a beaucoup de relations avec le Sénégal, par exemple, à cause de la langue.
Ouais.
C'est un pays francophone, par exemple,
oui.
c'est un pays africain, pas le français. Donc ça les a rapprochés de la France, quoi.
Tout à
manière.
Fait. Ouais. Bon, bah, écoutez, je crois que sur ces belles paroles, Jean-Jacques, on va terminer.
Je termine un petit mot.
Rapide, Jean-Jacques.
Je voudrais féliciter à Radium toutes les missions qu'ils ont fait aujourd'hui sur les pays étrangers et tout ça.
Ah bon, d'accord. Mais écoutez, voilà.
Je dédicace même à ma fiancée qui s'appelle Anne-Marie Tavano.
Allez, on est juste Anne-Marie, ça suffit. Bon, merci à
merci
tous.
Beaucoup,
on se dit à très bientôt.
Bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.